Laudetur Jesus Christus.
L'organisation de l'État islamique revendique le double attentat qui a frappé Bagdad hier matin. Selon un dernier bilan, 32 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Les jeunes Tunisiens poursuivent leurs manifestations à travers le pays. Le gouvernement réprime toujours les rassemblements. Le président, lui, préfère aller à la rencontre des protestataires. L'Union européenne déconseille les voyages non essentiels en Europe pour contrer la pandémie. Les 27 ont fait le point hier soir sur les vaccins et leur lutte contre la Covid-19. La Macédoine du Nord veut recenser sa population, mais dans un pays ethniquement divisé. Cette opération déchaîne les passions avant même d'avoir commencé. Entrée en vigueur aujourd'hui du traité d'interdiction des armes nucléaires, un texte incontournable pour le pape et le Saint-Siège. Nous en verrons la portée avec Monseigneur de Romanée, évêque aux armées françaises. C'est à suivre dans notre dossier à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Les premiers soupçons se sont vérifiés en Irak. L'organisation de l'État islamique a revendiqué hier soir le double attentat suicide d'hier matin sur un marché de Bagdad. Selon un dernier bilan, 32 personnes ont perdu la vie. Les précisions à Bagdad d'Anne-Sophie Lemoff.
Nous étions tellement contents que la sécurité soit revenue dans notre pays. Les gens marchaient sans crainte dans les rues et n'ont même pas réalisé ce qui leur arrivait lorsque le premier kamikaze s'est fait exploser, explique Moussa. Se rescapé du double attentat suicide qui a frappé jeudi midi un marché bondé du centre de Bagdad. Cette attaque revendiquée cette nuit par le groupe État islamique est la plus meurtrière en 3 ans dans la capitale. L'organisation État islamique assure que 2 de ses hommes se sont fait exploser sur la place Tayaran. Selon les autorités irakiennes, l'un des 2 est de nationalité saoudienne. À l'issue d'une réunion d'urgence, le premier ministre Mustafa Al-Kadhimi a limogé plusieurs têtes des services de sécurité, dont le directeur du contre-terrorisme au sein du ministère de l'Intérieur et commandant des forces de la police fédérale. Ce double attentat suicide replonge Bagdad dans les pires années du terrorisme, laissant craindre le retour du groupe État islamique sur le devant de la scène. Bien que déclaré vaincu en 2017, Daesh n'a jamais cessé d'être actif dans plusieurs zones montagneuses et désertiques du pays. À Bagdad, Anne-Sophie Lemoff pour Radio Vatican.
L'état d'urgence décrété pour 15 jours en République centrafricaine, signe de la gravité de la situation sécuritaire dans le pays, dominé en majorité par des groupes armés qui échappent au contrôle du gouvernement. L'émissaire de l'ONU en Centrafrique a réclamé hier au Conseil de sécurité une augmentation substantielle du nombre de casques bleus dans le pays pour notamment protéger Bangui, la capitale. Au Burkina Faso, le prêtre porté disparu depuis mardi dernier a été retrouvé mort hier dans une forêt du sud-ouest du pays, une zone où sévissent des groupes djihadistes, annonce faite par l'évêque de Bamfora, Mgr Kalfou Sanou. L'abbé Roderick Sanon devait se rendre à Bamfora quand il a disparu dans des circonstances qui demeurent floues. Plus de 1000 personnes interpellées par la police en Tunisie après les récentes manifestations un peu partout dans le pays. Ces arrestations ont été dénoncées par des organisations de la société civile. L'opposition a, elle, dénoncé les violences policières. Face à ce mouvement de protestation, le gouvernement se limite, pour le moment, à donner une réponse sécuritaire. Seul le chef de l'État, qui n'a pas de relais politique au Parlement, s'est distingué en allant dans un quartier populaire de Tunis à la rencontre des manifestants. À Tunis, Mohamed Haddad.
Depuis une semaine, des manifestations ont lieu nuit et jour à différents endroits de la Tunisie. La réponse des autorités a principalement été sécuritaire. Les forces de l'ordre ont procédé à des arrestations arbitraires de manifestants, dont la plupart ont été traités de manière humiliante, et les enfants ont également été tabassés lors de leurs arrestations, selon la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Ces agressions brutales n'ont pas seulement touché les protestataires, mais aussi les activistes sur les réseaux sociaux qui ont exprimé leur point de vue au sujet des manifestations. Le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, a appelé mardi, lors d'une allocution télévisée, toutes les parties de la société civile et de la population à ne pas se laisser entraîner dans des campagnes de mobilisation et d'incitation à la violence et éviter de répandre les rumeurs et déstabiliser les institutions de l'État. Un discours qui rappelle sensiblement l'ex-dictateur Zine El Abidine Ben Ali en janvier 2011, voilà 10 ans. Tunis, Mohamed Haddad pour Radio Vatican.
Manifestation hier en Grèce, à Athènes ou Thessalonique, de centaines d'étudiants hier donc. Ils s'insurgent contre un projet de loi imposant la présence de policiers dans les universités, des lieux traditionnellement très politisés qui feraient l'objet de menaces. Le sujet sensible dans le pays depuis la répression dans le sang en novembre 1973 d'un mouvement de jeunes à l'école polytechnique d'Athènes. C'était contre la junte des colonels au pouvoir à l'époque. Déconseiller les voyages non essentiels, c'est le bilan du sommet européen virtuel d'hier soir sur la pandémie de Covid, le 9e depuis l'apparition de la maladie. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union ont évoqué les questions de vaccination face au retard de livraison des vaccins et à la recrudescence des nouvelles variantes du virus. Ils ont aussi longuement débattu du corollaire de cette recrudescence à leurs yeux, à savoir la mise en place de mesures de contrôle aux frontières internes de l'Union européenne pour les voyages non essentiels. Les détails à Bruxelles avec Pierre Benazé.
Les 27 ont ouvert la voie à une décision commune pour les frontières internes de l'Union. Parmi les mesures que chaque pays commence à introduire, Emmanuel Macron a par exemple annoncé à ses homologues l'introduction d'une obligation de présenter un test PCR réalisé 72 heures avant le départ pour l'ensemble des voyageurs européens qui viennent en France, hors voyage dit essentiel. Pour l'instant, les pays les imposent en ordre dispersé et surtout pour les frontières extérieures. La décision française est emblématique d'un mouvement entamé par l'ensemble des pays de l'Union pour contenir les nouvelles variantes du coronavirus et pour tenter de garder malgré tout les frontières ouvertes pour les échanges commerciaux. La Commission est chargée de définir d'ici lundi quels sont les voyages essentiels avec des exemptions prévues pour les transports terrestres et les travailleurs frontaliers, par exemple. L'instauration de tests PCR aux frontières est largement soutenue, en particulier par l'Allemagne. L'adoption officielle lors de ce sommet d'une reconnaissance mutuelle des tests antigéniques et PCR ouvre donc la voie à des contrôles aux frontières intra-européennes. Pierre Benazé, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
En France, adoption hier à l'unanimité en première lecture par le Sénat d'une proposition de loi visant à créer un nouveau crime sexuel pour protéger les mineurs de moins de 13 ans. Parallèlement, le ministre de la Justice a annoncé des consultations avec les associations engagées dans la libération de la parole et l'aide aux victimes. La question de l'âge de consentement est également encore en débat. Décès à Madrid du prêtre blessé dans l'explosion de gaz qui a ravagé mercredi un immeuble de la capitale espagnole qui appartenait à une paroisse. En tout, 4 personnes ont perdu la vie. Ce prêtre de 36 ans avait été ordonné il y a 7 mois. Mercredi, le pape avait envoyé un message de condoléances aux familles des victimes. Un recensement qui déchaîne les passions. En Macédoine du Nord, le Parlement a voté une loi organisant le comptage de la population, une première depuis 20 ans. Il devrait se tenir en avril, mais dans un pays toujours soumis à de fortes tensions interethniques, la question prend un tour politique controversé et déchaîne les passions. À Belgrade, les explications de Laurent Rouy.
C'est à une très courte majorité et avec le boycott de la séance par la droite nationaliste que la loi sur le recensement a été adoptée. La question cristallise les tensions depuis presque 2 décennies. Le dernier recensement avait été organisé en 2002, après le règlement d'une crise armée qui avait porté le pays au bord de la guerre civile. Selon la Constitution, les minorités nationales représentant au niveau local plus de 20% de la population doivent obtenir des droits spécifiques, notamment en matière linguistique et d'éducation. Or, les Albanais de Macédoine représenteraient un quart de la population et dans certaines villes, personne ne sait s'ils passent ou pas le fameux seuil des 20%. Pour la droite, la coalition gouvernementale, dans laquelle sont représentés les partis des minorités, va tenter d'augmenter artificiellement le nombre d'Albanais pour leur octroyer plus de droits. De telles accusations de fraude avaient empêché en 2011 la tenue d'un recensement. Une mise à plat du nombre d'habitants devrait aussi entraîner la révision des listes électorales dans un pays où les accusations de fraude sont fréquentes aux élections. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
Au Vatican, l'ancien président de Lior entre 2001 et 2008, Angelo Caloia, et l'ancien avocat Gabriele Luzzo ont été reconnus coupables de blanchiment d'argent, de détournement de fonds et de malversation aggravée. Ils ont également été condamnés à verser une indemnité d'environ 23 millions d'euros à la banque. Une procédure avait été engagée en mars 2018 après une plainte de l'Institut des œuvres de religion, communément appelée la Banque du Vatican. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, premier instrument international juridiquement contraignant à interdire explicitement ces dispositifs, a rappelé le pape François mercredi dernier lors de l'audience générale, exhortant à œuvrer avec détermination pour construire un monde sans armes nucléaires. Le TIAN avait été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2017. Il a été ratifié en octobre dernier par un 50e pays, le Honduras, permettant ainsi son entrée en vigueur dans un délai de 90 jours. Ce traité, dont le Saint-Siège a été l'un des premiers signataires, interdit donc l'utilisation, le développement, la production et le stockage des armes nucléaires. Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises, en précise la portée plus de 50 ans après la signature du traité de non-prolifération nucléaire, c'était en 1968.
Un certain nombre d'États signataires se sont émus du fait que les négociations dans le cadre du traité de non-prolifération n'avançaient pas très vite et que on s'est mis à douter de la ferme détermination d'un certain nombre d'États possesseurs de la bombe atomique d'entrer dans une véritable logique de désarmement. Et c'est la raison du traité d'interdiction des armements nucléaires soutenu par le Saint-Siège pour mettre, voudrais-je dire, un coup de pied à la fourmilière et dire « ça ne va pas ». Nous sommes sur une trajectoire qui n'est absolument pas heureuse. Nous assistons même à une prolifération nucléaire, puisqu'un certain nombre d'États, en contradiction avec le traité de non-prolifération, ont acquis l'arme nucléaire. L'objectif pour tous est effectivement de remiser cette arme tragique, qui est l'arme nucléaire, dans des registres où elle disparaisse comme un danger pour l'humanité.
Les États dotés de l'arme nucléaire n'ont pas signé ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Quel peut alors être son poids ?
C'est un poids essentiellement moral. Effectivement, très concrètement, ça n'a pas de conséquences directes. Ça n'a pas de portée juridique en tant que telle sur les États non signataires. Mais c'est un cri lancé à la conscience de l'humanité pour inviter les uns et les autres à prendre le problème à bras-le-corps et réaliser que nous dansons sur un volcan et qu'on ne peut pas rester tranquille sur ce sujet.
Le pape François, comme ses prédécesseurs, a fustigé l'usage de l'arme nucléaire et depuis le Japon, en novembre 2019, il a également condamné leur possession. Quel peut être l'apport des encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti dans cette réflexion sur la dénucléarisation ? Au-delà des considérations géopolitiques et diplomatiques, c'est un appel à la conscience ?
Il y a un appel à la conscience qui est tout à fait essentiel. Le pape souligne de manière prophétique combien l'essentiel, c'est la conversion des cœurs. Il s'agit de retrouver une dynamique de négociation multilatérale et il s'agit de réaliser que tout est lié et que la fraternité est la seule voie de salut. D'une certaine manière, comme le dit le pape remarquablement, c'est la fraternité ou la mort pour notre humanité. Et donc, le tien est un cri qui, au stade où nous en sommes, est un cri diplomatique et spirituel. Il faudra qu'il rentre dans une réalité juridique et internationale réactivant le traité de non-prolifération, c'est ce à quoi appelle le Saint-Père d'une manière tout à fait essentielle.
Et en ce sens, Laudato Si et Fratelli Tutti sont des outils importants ?
Tout à fait considérables. Fratelli Tutti qui insiste sur cette dimension essentielle de la fraternité et qui dit bien la nécessité de la conversion des cœurs. Les armes n'ont jamais rien réglé. Il s'agit de passer sur un autre registre, celui de la fraternité, celui de la charité, celui de la solidarité, celui de notre commune humanité, dépasser les clivages, dépasser les nationalités, pour véritablement permettre au bien commun de pouvoir se déployer.
Mais peut-on véritablement croire en un changement de paradigme ? Imaginer un monde sans armes nucléaires, n'est-ce pas utopique ?
Alors le pape Jean-Paul II le disait lui-même, certes, il y a une part d'utopie, mais le pape François le dit magnifiquement dans Fratelli Tutti. Nous avons besoin d'objectifs, nous avons besoin de sens, nous avons besoin de paroles prophétiques. Et donc, il est important que nous nous mettions en marche vers cet objectif. Oui, l'humanité est touchée par le péché, oui, l'homme est pris par cette volonté de domination qui est tapie dans son cœur, mais nous ne pouvons pas rester enquistés dans ces réalités tragiques qui conduisent à la mort. Il nous faut aller vers la lumière, il nous faut aller vers la vie. Et donc, quand bien même nous prenons conscience du fait qu'il s'agit d'un processus de temps long, il s'agit de féconder les consciences, et ce sont tous les peuples de la Terre qui ont, d'une certaine manière, à peser pour que les autorités en charge de ces questions essayent d'avancer de manière tout à fait délibérée vers plus de justice, plus de charité et plus de fraternité. C'est ainsi et ainsi seulement que notre planète demeurera vivable.
Interrogé par Hélène Deton, Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Thank you. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations et nos interviews, et notamment celle du dossier, sur notre site internet www.vaticannews.va. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook ainsi que notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.